Et nous recevons à l'antenne Guillaume Ribaud. Bonsoir.
Bonsoir.
Bon, alors monsieur Ribaud, nous rappelons que vous êtes photographe de presse, auteur et donc réalisateur. Vous sortez aujourd'hui le film « Je n'avais que le néant », documentaire sur la conception du Shoah de Claude Lanzmann. Nous rappelons également que vous êtes un grand passionné par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et du génocide des Juifs. Ma première question sera très simple. Qu'est-ce qui vous a animé? Qu'est-ce qui vous a donné envie de consacrer ce film, non pas directement sur la Shoah, mais sur la conception de cet opus immense Shoah de Claude Lanzmann?
En fait, j'ai un passé assez long sur le thème de la Shoah, puisque depuis 27 ans, je travaille sur cette histoire qui m'occupe pour plein de raisons, et professionnelle, et c'est devenu personnel quand j'ai découvert que ma grand-mère avait tenté de cacher des enfants juifs pendant la guerre. Et donc, je réalisais un dernier film, et puis lorsque je le préparais, j'ai découvert par hasard que les rushs du film Shoah de Claude Lanzmann avaient été déposés à l'Holocaust Museum de Washington, l'ensemble des 220 heures qui n'avaient pas été retenues au montage. Et tout de suite, j'ai repensé au livre de Claude Lanzmann, qui sont ses mémoires, le livre de Patagonie, et j'ai vraiment eu l'idée, ça c'était il y a quelques années, de me dire, mais il y a tout là, il y a un texte, il y a des images, ça serait formidable d'arriver à faire un film. Voilà exactement la chose. Je pense qu'il y a tout mon passé qui m'a permis d'être prêt à faire ce film, parce qu'il fallait, je pense, avoir pas mal de, presque de prétention pour pouvoir se confronter à ce monument qu'est le film Shoah.
Très bien, et ce qui nous marque aussi beaucoup dans le film, à travers toutes ces archives qui ont l'air énormément d'être énormes, c'est à quel point Lanzmann est présenté non vraiment, pas seulement comme un historien, mais comme un artiste, un vrai réalisateur de cinéma. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous a parlé aussi en tant que photographe? On voit par exemple que Lanzmann filmait énormément. Est-ce qu'il filmait en dehors de la conception de ses films? Est-ce qu'il aimait filmer des scènes quotidiennes, de vie, etc., au cas où il devait l'incorporer plus tard dans un film?
Alors, je ne pense pas, parce que Lanzmann lui-même ne filmait pas. Il était entouré par de très grands chefs opérateurs, dont William Lutyanski, qui était un très grand chef opérateur de films de fiction. Donc, c'est avec une équipe absolument formidable qu'il a réussi à faire ça. Je n'ai jamais rencontré Claude Lanzmann, donc je ne peux pas vous parler de lui au quotidien, mais je sais qu'il n'était pas animé lui-même par la technique de filmage, etc. Mais vous avez employé le mot « archive ». Moi, j'ai plutôt envie de vous dire, ces images ne sont pas des archives, ces images sont une matière vivante. Parce qu'en fait, les rushs, ce sont le direct du tournage. Donc, pour une fois, je n'ai pas travaillé réellement avec des archives, même si, au fond, on peut les considérer comme telles, puisque ce sont des images archivées quelque part. Mais ce sont des images qui parlent d'un Claude Lanzmann au travail, un Claude Lanzmann qu'on ne connaissait pas. Sous cette forme, si je puis dire, c'est que Claude Lanzmann n'est encore pas le Claude Lanzmann qui, après la sortie de Shoah, dans mon film, il n'est encore pas le très grand réalisateur qu'il est devenu. Il n'est pas le réalisateur du film Shoah. C'est un homme qui doute. C'est un ancien journaliste, philosophe, très grand, très érudit. Mais là, il est... Et c'est pour ça que mon film, je dirais, a une particularité, c'est qu'on trouve un Claude Lanzmann qui doute. Ce qui n'a pas été le cas ensuite lorsqu'il est advenu, si je puis dire, s'il est là, cette statue du commandeur, de l'homme qui avait fourni un travail monumental, considérable, aujourd'hui enregistré à la mémoire du monde de l'UNESCO. Il y a très peu de films comme Shoah qui sont à la mémoire du monde de l'UNESCO. Il y a Métropolis de Fritz Lang, les films des Frères Lumière et Los Olvidados des Buñuel. Donc il y a très peu de films. Ça veut dire à quel point, lors de ce tournage, il a conçu une œuvre majeure pour la mémoire de l'humanité.
Lorsque j'étais très jeune, j'avais l'âge de Victor, j'imagine, j'ai interviewé Claude Lanzmann et je lui ai dit « Votre film ?» C'était le début de ma phrase. Et il me dit « Non monsieur, c'est pas un film Shoah. » « Ah, excusez-moi, j'ai 20 ans, moi j'ai l'impression d'avoir vu un film. » « Non, c'est une œuvre. » Et c'est très intéressant parce que depuis le début de notre entretien, je vous entends répondre à Victor en disant « Ce très grand réalisateur, ce très grand réalisateur, lui aussi, après vous relance en vous demandant c'est quoi son travail de cinéaste. » Alors que pour moi, jusqu'à aujourd'hui, Shoah, en fait, c'est juste le plus grand témoignage jamais produit au cinéma. C'est un témoignage pour moi, c'est pas une œuvre.
Alors écoutez, je me permets de comprendre ce que vous dites, mais pour moi, mon film, en tout cas, c'est un film qui parle de cinéma, de comment Claude Lanzmann réalise ce film, les doutes, tout ce qui arrive effectivement pour que ce film advienne et devienne, peut-être comme vous venez juste de l'exprimer, un magnifique témoignage, mais c'est aussi, et moi c'est vraiment mon propos, c'est mon film parle de la manière de faire un film. C'est Shoah qui est un film où il y a des témoignages, des témoins, des survivants, des assassins, etc. Moi, personnellement, j'ai toujours vu Shoah comme du très grand cinéma, et c'est aussi une épreuve psychique et physique lorsqu'on le voit en salle. J'engage tous vos auditeurs à voir Shoah en salle, en une fois, en deux fois, parce qu'on est face à quelque chose. Et là, je rejoins peut-être...
D'ailleurs, pour vous appuyer, on rappelle qu'il passe en salle dans un mois à la Cinémathèque pour ses 40 ans. On invite nos auditeurs à s'y rendre.
Oui. Je crois même qu'il est diffusé au Mémorial de la Shoah. Je n'ai pas la date exacte, mais c'est sous peu. Donc vraiment, c'est vraiment une expérience. Et là, on est confronté au témoignage, comme vous venez de dire. On est confronté à l'œuvre et on est confronté à la mémoire et à la transmission. Moi, je pense vraiment... Parce que nous sommes en train de parler du film que je viens de réaliser, c'est un film qui parle de cinéma, d'un réalisateur au travail. Shoah, c'est autre chose.
Moi, je suis tout d'accord, tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Ribot. Moi, ce qui m'a beaucoup saisi dans votre film, c'est à quel point c'est une ode au cinéma et aussi à, je voulais vous poser la question, à la manière dont le cinéma, quelquefois, a cette vocation à faire rejouer le passé. Et vous, à quel point vous êtes en distance par rapport à la figure de Claude Lanzmann, à quel point vous vous identifiez à sa figure, à quel point vous essayez de comprendre le personnage, que en fait le film, on suit tout le cheminement de Claude Lanzmann, le fait qu'il ne sait pas vraiment de quoi, quel est vraiment le message de Shoah, il essaye de se découvrir lui-même pendant qu'il fait l'œuvre. À quel point cette figure vous intéresse, à quel point vous vous identifiez, parce que moi je considère Claude Lanzmann totalement comme un artiste, à quel point vous vous êtes identifié à cette figure par rapport à vous-même dans ce film?
Alors, je ne suis pas sûr que je me sois identifié, mais en tout cas, j'ai rencontré un Claude Lanzmann que je ne connaissais pas. J'ai rencontré un Claude Lanzmann qui cherchait, qui doutait, et j'ai... Peut-être au-delà de l'identification, j'ai trouvé des similitudes avec sa démarche, sa recherche, parce que comme lui, avant j'étais photographe, j'ai réalisé des expositions, édité des livres, etc. Et pour faire de la photographie, par essence, on est obligé d'aller sur le terrain. Ça, c'est... Et Claude Lanzmann disait de lui, je suis un réalisateur topographe, parce que les lieux ont vraiment une importance dans Shoah et dans le film que je viens de réaliser, Je n'avais que le néant. Et juste pour l'anecdote, vous savez qu'avant que Shoah ne s'appelle Shoah, le titre provisoire était Le lieu et la parole. C'était un titre assez littéraire que Lanzmann aimait mais trouvait trop littéraire. Mais c'est ça, Shoah. Shoah, c'est le lieu et la parole, parce que les lieux sont vides, il n'avait que le néant, d'où le titre de mon film, et la parole vient donner corps à ces lieux, vient les ressusciter, et inversement, les lieux donnent une puissance énorme à la parole. Et j'ai aussi été assez attiré par la démarche professionnelle, artistique de réalisateur de Claude Lanzmann, parce que pendant 5 années, je suis allé enquêter en Ukraine avec la fondation du père Patrick Desbois dans les villages d'Ukraine, c'était dans les années, au mi-temps des années 2000, et moi j'ai rencontré plus de 1000 témoins des assassinats des juifs par les Einsatzgruppen en Ukraine, et ce que fait Claude Lanzmann dans mon film, quand on le voit aller interroger les paysans polonais du village de Treblinka, moi je l'ai fait 1000 fois en Ukraine. J'étais vraiment, je le vois pousser le portillon en bois vermoulu, moi j'ai fait ça tout le temps, et je me suis toujours trouvé en résonance avec lui, et le doute aussi est quelque chose moi, qui est très fort en moi, et je crois que c'est comme ça qu'on arrive quand même à produire des œuvres, c'est en réfléchissant. Mais Claude Lanzmann est un précurseur, il a écrit une grammaire cinématographique et une grammaire mémorielle aussi, je pense.
Vous nous parliez à quel point c'était un Shoah de Claude Lanzmann est un film topographique selon votre expression. Pourquoi dans votre film parler plus, est-ce que dans les archives de Shoah de Claude Lanzmann il s'intéressait plus déjà à Treblinka qu'à Auschwitz, ou est-ce que c'est vous selon votre travail de sélection et de montage?
Parce que dans le film que vous avez réalisé, on voit surtout Treblinka.
Alors en fait un film a une architecture, c'est Claude Lanzmann qui disait ça. Donc en fait ce n'est pas parce que j'avais 220 heures de rush à ma disposition, dont beaucoup de témoignages hein, d'ailleurs, je pense que presque les deux tiers sont des témoignages, et ce n'est pas l'objet de mon film, les témoignages ne sont pas l'objet de mon film. En fait, je n'ai rien repoussé volontairement, mais dans l'écriture du scénario, est très vite arrivé que les grands personnages, si on peut les appeler comme ça, de Shoah, à part Philippe Müller, sont ceux qui parlent de Treblinka. Ce sont ceux qui sont dans mon film. Il y a évidemment Abraham Bomba, il y a Franz Zurommel, l'ancien SS du camp, et Richard Glazar. Et surtout, dans les rushs, ces personnages, ces témoins apportent quelque chose de nouveau à Shoah. Parce que moi, le grand risque, c'était de répéter. Parce que moi, je disposais d'images qui auraient pu être dans Shoah. Donc, il y avait un très grand danger, presque parfois, à trouver le bon positionnement. Et en plus, pour être tout à fait franc, Claude Lanzmann a utilisé quasiment l'entièreté des rushs sur Auschwitz pour Shoah. Donc moi, je n'avais très peu de choses et ça m'a arrangé en plus, je vais vous dire très sincèrement, c'est que Auschwitz a aussi un monopole de l'iconographie dans l'histoire de la Shoah. Et Treblinka, c'est le néant. Treblinka, en 1943, lorsque le camp a été dissous, il a été totalement rasé par les nazis et ensuite ils ont planté une forêt dessus. Et ça, c'est aussi toute la difficulté de pouvoir raconter en images un lieu, une mémoire, une histoire lorsque nous n'avons plus rien, lorsque nous n'avons plus que le néant.
C'est vrai, c'est même
Mais
le
c'est le
titre de votre
titre,
film,
c'est le
ouais,
titre
tout
du
à
film.
fait.
Il y a un entretien très célèbre entre Claude Lanzmann et un officier SS où il le rencontre régulièrement, il vient le voir tous les mois, il filme à chaque fois, et le nazi est tellement fier de ce qu'il a fait à Treblinka qu'il raconte avec. Et même, il lui dit, ben, montrez-moi sur le tableau, et même avec des graphiques, il dit, oui, on fait ça. Mais les femmes, quand vous les déshabillez, avant de les mettre dans la chambre à gaz, vous les frappiez. Oui, on les frappait, etc. Ça, c'est dans le film Shoah, ou c'est dans Sobibor, ou c'est dans quelle œuvre de Claude Lanzmann,
Alors,
cet entretien?
c'est dans Shoah, c'est avec Franz Zurommel que vous retrouvez dans mon film. En fait, Franz Zurommel a été la première interview en 1976 faite par Claude Lanzmann, bien avant le début réel du tournage. En fait, il a profité d'une invention d'une caméra cachée qui s'appelait la Paluche, et donc il a dupé ce nazi pour enregistrer son témoignage, parce qu'il avait réussi à négocier simplement d'enregistrer sa voix. Et là, avec cette caméra, on a réussi à obtenir l'image de Franz Zurommel qui explique d'une manière absolument incroyable et dans le détail le fonctionnement du camp de Treblinka.
Est-ce que c'est celui qui le vire de chez lui parce qu'il a un camion devant lui ou c'est l'autre image d'archive dans votre film?
Non, c'est Franz Zurommel est celui qui chante la chanson de Treblinka d'une manière
Ah oui, tout
totalement
à fait.
cynique. Et Hans Schubert était un responsable des Einsatzgruppen en Crimée, que Claude Lanzmann voulait absolument interroger et intégrer l'histoire des Einsatzgruppen dans Shoah. Il n'a pas pu, il n'a jamais réussi à interviewer un des officiers SS dirigeants des
Tout à
exécutions
fait. Et on le suit, c'est une scène
à l'Est.
passionnante de votre film où il essaye de l'interviewer et en fait il vient chez lui avec son petit camion et sa petite caméra cachée. Et en fait il se fait, si je me souviens bien, il se fait virer par sa femme et lui après s'être fait découvert, non?
Je n'en dirai pas plus,
Très bien.
vous venez
Ah
d'en dire beaucoup, mais oui,
Excusez-moi.
c'est cela.
Malheureusement, c'est une histoire qui est tellement connue, l'histoire de la Shoah, si je me permets ce mot. Est-ce que vous vous êtes interrogé aussi sur le contexte actuel? Vous vous êtes dit, parce que moi je suis obligé d'y penser, c'est mon métier, quand je vois les accusations qui ont été portées contre les Juifs aujourd'hui, que je me souviens de Shoah, je me dis, c'est pas... enfin, c'est impensable pour moi, c'est incroyable. J'aurais jamais imaginé un professeur de Lyon 2 faire une liste de Juifs dont le père des Bois que vous avez évoqué en disant, voilà, c'est tous des génocidaires. Pour moi, c'est impensable. Je suis peut-être trop vieux d'ailleurs, mais pour moi, c'était impensable. Vous avez réfléchi à
Écoute.
ça, à la sortie de votre film, dans un contexte où on a complètement retourné l'idée de génocide contre les Juifs?
Alors non, je vais vous dire une chose assez clairement. J'ai décidé depuis la première internationale au Festival de Berlin en mois de février de ne pas m'exprimer sur l'histoire contemporaine, car d'une part, mon avis n'est pas important. Ensuite, je me méfie toujours, moi, vous connaissez cette expression comparaison n'est pas raison en histoire. Je n'aime pas faire ça et je ne suis là, pardonnez-moi, je ne fuis pas en disant ça, c'est que je préfère, et vous l'avez déjà bien évoqué dans votre question, je pense qu'il y a tout. Je laisserai les gens réfléchir en voyant mon film à la contemporanéité peut-être de certains éléments, mais permettez-moi de ne pas m'exprimer sur ce sujet.
Très bien. Mais il y a quelque chose qui est assez, je dis souvent le mot saisissant, mais c'est un mot qui me vient beaucoup à l'esprit, dans votre film qui fait penser pas forcément que à l'histoire contemporaine, mais même à ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, c'est à quel point Claude Lanzmann doit cacher son nom. Durant tout le film, c'est expliqué qu'il doit faire un faux passeport pour s'appeler Monsieur Sorel et non Monsieur Lanzmann. Est-ce qu'il y a quand même cette idée de comment comment dire, la persécution des Juifs continue d'une manière un peu insidieuse, du moins jusqu'à dans la conception même de cette œuvre à la mémoire.
Alors, pour ce qui concerne le changement de nom de Claude Lanzmann durant son enquête, en fait, il le dit très bien lui-même. Il dit, pour obtenir la vérité, il fallait apprendre à tromper les trompeurs. Parce que, et il le dit dans la voix off qui est extraite de ses mémoires, son nom à consonance juive, lorsqu'il s'adressait à des anciens nazis, évidemment, les gens ne lui parlaient pas. Donc, il a intégré cette manière de tromperie, de duper, pour pouvoir obtenir la vérité. Et d'ailleurs, il a choisi son nom, évidemment, pour Julien Sorel, il s'appelle Claude-Marie Sorel. Et ensuite, il crée un faux institut de recherche. Moi, j'ai vu dans les archives de Shoah, parce que Dominique Lanzmann m'a permis de consulter les archives professionnelles de Shoah, j'ai vu du papier en tête avec le nom de cet institut, sur le nom Dr Sorel, j'ai vu les lettres adressées à Monsieur Sorel, etc. Donc il fait ça parce que oui, la connotation juive de son nom allait poser un problème pour obtenir la vérité, mais c'est très important dans mon film parce qu'il s'adresse à d'anciens nazis.
Guillaume Ribaud, merci pour ces quelques mots sur Radio Shalom. Donc Victor nous disait que le film sera visible à la Cinémathèque.
Non, pardon. Shoah est visible à la Cinémathèque. Je n'avais que le héant de Guillaume Ribaud est visible dans plein de salles.
Il est distribué partout.
À partir d'aujourd'hui, il sort au cinéma et on a beaucoup, beaucoup aimé le film et on vous invite à aller le voir.
Allez le voir. Nombreux, merci d'avoir été l'invité de Radio Channel. Bonsoir à vous.
Bonsoir.